Il s'échappait. Une bulle de chuchotement hors du temps pour un chuchotement hors du temps pour toi, pour moi. S'oublier dans les confinements pour mieux s'oublier dans les autres pour mieux revenir à soi.
Coucou tout le monde. Alors, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Je dois dire que pour ma part, l'idée des vacances scolaires qui arrivent, me fait du bien. Même si je trouve que les enfants, je parle des miens, mais de ce que me disent les copains aussi, ce confinement, je dis pas qu'il est fini le confinement, mais la brutalité et la violence dans laquelle ils ont été projetés d'un coup, clac, à la maison, en arrêtant toutes leurs activités, on a tous des enfants qui font des millions de choses, et là, plus rien. Et je trouve qu'ils sont calmes quand même, vraiment calmes, posés, solidaires. Ça va être l'anniversaire de ma fille, elle m'a dit « Non, mais je sais que je n'aurai pas de cadeau, c'est pas grave, on le fera après. » Pourtant, c'est ses 10 ans. Et en tout cas, je peux assurer que je n'ai pas de vocation de maîtresse, ni de professeur d'ailleurs. Et que c'était intéressant quand même, ce passage à l'école. Et au fond, je suis persuadée que ça a permis aussi aux enfants de trouver un rythme, que de travailler un petit peu, de se mettre en travail, de ne pas tout relâcher d'un coup. Peut-être que ça aurait été plus dur, je ne sais pas. Bref, sur le livre que je vais vous lire aujourd'hui, il y a une dédicace de l'auteur. Et il dit « Pour Christophe et Mélanie, à qui je dédie ce livre sur la rupture, sympa, non, quand même, sans rancune, avec toute mon amitié, Didier Tronchet. » On commence avec Roseau, « I'm going home. »
You can cry, I'll hold it. I'm ashamed, I really wanna try. You can always quit and I'll stand by. Oh, I'll stay for you. Said I'm leaving the bar. Said I'm staying. Nothing lights a spark when I know I'm going home. You can cry soulless. Our home where we will spend our lives. Up to the sky, but I'll try, oh, I'll try for you. Oh, I'm leaving the park. I know when I'm alone. Said I'm staying at the start to make it feel new. Oh, true that you've been calling on me to speak of why I cannot hide all you've done has been wearing me down deep in my soul. Listen to the leaves.
Walking in the park, I know when I'm alone.
Said I'm steadying my heart.
Has mostly worked till now.
Oh, I need
walking
you.
In the park, I don't wanna know.
Oh,
I'm
extrait de « Nous deux moins toi » de Didier Tronchet. Un beau gâchis. Quelque chose aurait dû m'alerter. Un poids moindre sur le matelas. L'immobilité de la couette. Un silence palpable. Et surtout cette intuition de l'absence qui nous vient d'onde ses os. Mais tout à mon réveil douloureux, je refusais cette évidence. Nous étions bien moins nombreux dans le lit. La moitié de la population avait déserté. J'aurais pu mettre cette absence sur le compte d'une nécessité urinaire matinale ou d'une envie soudaine et rare qu'elle aurait eue de me remonter des croissants de la boulangerie. Cette fameuse intuition me l'interdisait. Cette fois, c'était plus grave. Me revint à l'esprit une expression singulière désuète venue du fond des années 80. Ça sent le pâté. Soyons honnêtes, un autre détail m'avait mis la puce à l'oreille. Une feuille pliée en quatre sur le bout du lit. Un papier offset, blanc cassé, dont je me souviens très bien que l'emballage disait « Idéal pour vos travaux de texte et de graphique. Son velouté planéité impeccable donne à votre présentation un caractère net et soigné. » Je cite de mémoire car l'argumentaire m'avait touchée par son appel à la sensualité et convaincue de l'acheter par grosse ramette. Mon premier réflexe fut donc, bon évidemment je le regrette, mais dans les brumes du réveil, la machine tourne parfois à vide, de déplorer le gâchis. Une feuille complète, pour deux ou trois mots, c'est une chose que j'ai du mal à supporter, comme les lampes allumées en plein jour et les chasses d'eau tirées pour un oui ou pour un non. On peut conclure à de la mesquinerie. J'aime à y voir, moi, une conscience aiguë des ressources limitées de notre planète mère. Dans cet esprit, j'avais prévu un petit stock de papier récupéré, photocopie ratée dont le dos est formidablement vierge, précoupé en quatre et à disposition pour les communications internes ne réclamant pas de développement littéraire ou autre effet de manche. Ces petits mots à l'intention de l'autre, affûté, touchant, filant droit à l'essentiel. Qu'on pardonne mon triomphalisme, mais c'est précisément le cas. J'aurais apprécié qu'on leur trouve un usage à cette occasion. Passons. Ce petit mot sur sa grande feuille était écrit d'une main délicatement féminine, avec des pleins et des déliés comme on n'ose plus en faire. J'en fus immédiatement émue. L'écriture, tout comme la voix au téléphone, possède un fort pouvoir d'évocation de la personne aimée. Cette dernière est tout entière dans ses rondeurs, comme dans les modulations. J'en oubliais instantanément mes récriminations, alors même que ces quatre petits mots, dont un composé, flottant dans la vacuité blanche de la feuille 21 par 29,7 entière, eussent pu les aviver. Force m'est de constater aussi que le fabricant n'avait pas tort de claironner sur son emballage. Le velouté donnait décidément un caractère net et soigné à la présentation. Bon, et le texte, me direz-vous? Alors je vais essayer ici de ne pas trahir la pensée de l'auteur, d'en restituer toute la nuance. Ce petit mot disait « Je te quitte, Jean-Claude ». Bon point de l'auteur, il ne s'était pas embarrassé de fioritures. Un sens du raccourci tout à son honneur. D'autres moins inspirés auraient ajouté un « pardon » détestable de culpabilité non assumée ou un « je t'aime » plein de contradictions qui auraient brouillé le message. Je sais gré à l'auteur d'avoir également renoncé à évoquer, au seuil du deuil, les sempiternelles allusions nostalgiques au bon temps passé ensemble. À ces moments tellement inoubliables, mais pas au point d'éviter l'issue fatale. Alors quoi? Ces figures de style destinées à atténuer la brutalité, à enrober l'amertume de sucreries ne rendent pas service. Saluons ici le dépouillement de la formule « Je te quitte Jean-Claude » qui ne laisse que peu de latitude à l'interprétation.
Récemment, je me suis fait la réflexion. Finalement, notre situation me plaisait et sans jamais de discussion, sans y avoir fait vraiment attention. Je t'aimais d'amour, je t'aimais mon amour, et je voulais te le faire savoir, te dire que j'étais prêt à construire, que je voulais y croire. Est-ce qu'on existe encore quand on vient de se faire tège ou petit déj? Est-ce que c'est ça la mort quand on peut plus bouger le cul de son siège? Est-ce qu'on respire encore?
Est-ce qu'on respire encore
quand on vient de se faire tège ou petit déj? Est-ce qu'en vivant avec des remords on s'en sort? Récemment je me suis fait la réflexion. Finalement notre séparation, c'était il y a longtemps, c'était il y a un an, c'était dans notre ancien appartement, c'était quand je t'aimais d'amour, je t'aimais mon amour. Et je pensais que tu m'aimais aussi. Est-ce qu'on existe encore? Un an après cette fêtage, au petit-déj, si c'est plus le même décor,
si c'est plus le même décor.
Est-ce qu'on a gardé le même siège? Est-ce qu'on résiste encore? Un an après cette fêtage, au petit-déj, est-ce qu'en vivant avec des remords on s'en sort? Récemment je me suis fait la réflexion, moins dépendant de mes émotions, mais célibataire depuis 40 ans. À chaque anniversaire, j'ai levé mon verre à quand je t'aimais d'amour, je t'aimais mon amour. On ne s'est jamais revu depuis. Est-ce qu'on existe encore toute une vie après cette fêtage au petit-déj? Est-ce que c'est ça la mort? Est-ce qu'on existe encore toute une vie après cette fêtage au petit-déj? Est-ce qu'en vivant avec des remords on s'en sort? Le café, les croissants, tu t'éveilles dans la chambre, le chat sur le divan, sommeil au soleil de décembre, juste avant que je, quand j'allais te dire que
je t'aime,
je t'aimais d'amour, je t'aimais mon amour,
je t'aime.
Un prénom à coucher tout seul. Je n'ai jamais beaucoup aimé mon prénom, mais sur cette feuille blanche, dans cette configuration sémantique particulièrement ramassée, ben, je l'ai carrément détesté. Dans les films ou dans les bandes dessinées, un personnage un peu bêta s'appelle à tous les coups Jean-Claude. C'est un prénom qui vient des années 60, pour l'éternité marquée du sceau de la ringardise. Je ne connais aucun Jean-Claude, un tant soit peu reluisant. Bon, au mieux Jean-Claude Bourret, présentateur télé du journal de 13h, spécialiste en France profonde, en ovni. Pas de quoi vous enflammer en patronyme. Ce prénom est une création de ma mère. Ben, on l'imagine, je n'y suis pour rien. J'y retrouve sa marque. Le buste de cerf, incorporant un baromètre, qui trône chez elle, aurait pu s'appeler Jean-Claude. D'ailleurs, qui sait? Peut-être s'est-elle entraînée à l'appeler Jean-Claude avant moi. Peut-être est-il une forme de jumeau monstrueux, vaincu, cloué au mur. Moi, je serais celui des deux qui a réussi. Et ces bois sur la tête, symbole d'infortune conjugale, une malédiction qui m'aurait lancé, une aiguille barométrique définitivement bloquée dans ma direction, sur tempête, retour du givre. Et enfin plus gênant, Jean-Claude, ce n'est pas vraiment un prénom qu'on peut crier dans un orgasme. C'est pas crédible. En tout cas, j'ai jamais entendu dans cette circonstance. Bien sûr, on sera tenté de mettre en doute mes performances, qui fausseraient en l'occurrence le raisonnement. Je ne crois pas, car il m'est arrivé parfois de soutirer quelques, disons pour rester humble, bruyants soupirs de l'être aimé. Mais jamais aucun feulement modulant mon prénom dans un spasme, des « Ah, Franck !» des « Oh, Steve !» des « Michael !» Dans les films, oui. Des « Ah, oh, Jean-Claude !» jamais. Ce qui fait, pour revenir à notre affaire, de la formule « Je te quitte, Jean-Claude », une proposition parfaitement acceptable. À cet instant précis, moi-même, avec un prénom pareil, j'aurais eu envie de me quitter. Il y a une espèce de logique inattaquable. Le « je te quitte » s'agrégeant naturellement à Jean-Claude, jusqu'à la redondance. À vrai dire, la véritable incongruité vient de la possibilité qu'il y ait eu une vie avec Jean-Claude, avant que la raison ne revienne et qu'on le quitte pour rétablir l'ordre des choses. Non mais vraiment, il y a une telle évidence que c'en est presque une de ces devinettes stupides. « Monsieur et madame, je te quitte, ont un fils !» Jean-Claude. La surprise, en revanche, est venue de la signature. Ou plutôt, notez la subtilité du message finalement foisonnant de fulgurances cachées, de l'absence de signature. La signataire, doublement disparue, et de la chambre, et du paragraphe final. Infiniment pléonasmique elle-même. Une absence se nommant par l'absence. Ultime pirouette non verbale. Brillantissime fuite dans l'informulité. Chapeau. En revanche, son prénom absent, je l'ai toujours aimé. Isabelle. Assez difficile à porter, avouons-le. Il ne souffre pas de la disgrâce physique. Il sanctionne d'une saillie de dérision celle qui s'obstinerait à le porter, sans en mériter véritablement la troisième syllabe. Une Isabelle moche est condamnée à n'être qu'un flagrant démenti. Isabelle, elle s'avançait comme une publicité qui tient ses promesses, un vœu réalisé. Peut-être faut-il avoir une prédestination des noms. Enfant, j'ai longtemps cru à cette hypothèse que le nom fait l'homme. Dans la rue commerçante, j'avais noté pas moins de deux confirmations éclatantes de cette théorie. Le magasin de René Chaussures et l'enseigne Jean-Marie Coiffeur. Lorsque Jean-Marie Coiffeur, impeccablement cintré dans sa blouse en nylon bleu, me coupait les cheveux à la brosse, on sentait qu'il était à son affaire. Comme le disait ma mère, il ne faisait pas le métier d'un autre. En même temps, je me disais, où est son mérite ? Avec un nom pareil, Jean-Marie Coiffeur ne pouvait pas finir autrement. Cela dit, bravo d'avoir persévéré. Quant à René Chaussures, j'ai appris fortuitement que ce n'était ni plus ni moins qu'un imposteur. Son fils était dans ma classe, Jean-Marc Chaussures, ou plutôt justement non. Et ce n'est pas qu'il a trahi son paternel usurpateur, Jean-Marc Chapoutier. On conçoit mieux, au passage, la nécessité impérieuse de changer de nom. René Père avait donc pris un pseudo, comme n'importe quelle star de cinéma ou de chanteur de variété. Seulement ce ballot de René avait choisi un nom, à mon sens, trop évocateur de sa profession. Un peu cousu de fil blanc. Un peu comme si Jimi Hendrix s'était fait appeler Jean Guitare ou Ringo Starr, Richard Battery. Peu importe, le magasin a fait faillite, ce qui tend à prouver qu'il existe une forme de justice patronymique et qu'elle est implacable. Sachons trancher dans le vif. J'en étais là de mes réflexions. Le visage aussi froissé que les draps encore tièdes de moi-même.
Tous les prénoms que nous portons, lorsqu'ils ne sont pas rattachés à un visage, évoquent souvent, par association, une certaine idée reçue ou une image. Dans un roman, si vous rencontrez un Charles Hubert, vous attendez un haut dignitaire à particules, tandis que si le personnage s'appelle Robert, vous entendez la bière qui se décapsule. Mais un Michel, qu'est-ce que c'est un Michel? Ça sonne juste pas mal dans la bouche. Dans Michel, Yami et puis Yachel. Nous Nous mettons en garde les jeunes parents qui cherchent un prénom pour leur enfant, d'en choisir un qui corresponde à la dure réalité de notre monde. Plus tard, quand ils chercheront à travailler, des gens sans scrupules n'hésiteront pas à mettre à la poubelle leur curriculum vite fait si le prénom de votre enfant ne convient pas. Un Michel, c'est gentil, un Michel, ça ne ferait pas de mal à une mouche. Mais les mouches, elles, elles s'en foutent des Michel. Enzo Roberto, ça fait italien, tandis que sa verge, ça fait javanais. Yuri ou Igor, ça fait plutôt russe, tandis que ça fait con. Il y a des prénoms qui font très bêtes et méchants. Pour ne pas choquer, je ne dirai pas lesquels. Il y en a d'autres qui font intelligents, comme par exemple
Arnaud, David, Mathieu,
Emmanuel. Mais un Michel, c'est sympa, un Michel, y'a pas besoin d'en mettre plusieurs couches. Dans Michel, y'a Mich et puis y'a elle.
La partie collatérale du lit me semblait déjà froide comme un linceul. Quand j'ai entendu du bruit dans la cuisine, très exactement un bruit de valise qu'on remplit. Impossible de me tromper. Hein. Des bruits de valise qu'on remplit, sans me vanter, j'en ai connu un certain nombre. J'ai l'oreille pour ça. Je suis même devenue une espèce de spécialiste capable de distinguer à moins de 20 mètres un sous-vêtement en coton polyamide 30% synthétique remplissant une Samsonite à double serrure crantée. Je tends l'oreille, je me concentre. C'était un bruit de jeune femme, 25-30 ans, blonde, pliant une nuisette en satin délicat, 40 degrés en machine, dans une Vuitton à double armature tungstène. En un bond, j'étais à la porte pour vérifier l'hypothèse. Gagné. C'était presque ça. Bon, la nuisette était en dentelle de Calais, nettoyage à sec, bon. Mais sinon, quel talent, non ? Et la jeune femme de 25-30 ans s'apprêtait à quitter Jean-Claude. Expression désormais idiomatique, en prenant le chemin qui mène de la cuisine à la porte d'entrée sans passer par la chambre. Comme toujours dans les grands événements de la vie et dans les comédies italiennes, un poil de cocasserie s'invite dans le pur tragique. Quoi de plus amusant que quelqu'un qui vous écrit qu'il part pour toujours et qu'on retrouve 2 minutes plus tard? Bon, à la réflexion, je connais 1000 choses plus amusantes. Pour une professionnelle de la rupture, si je m'en réfère à ailleurs à la froide efficacité de sa communication, elle avait mal calculé son coût. Sans vouloir jouer les donneurs de leçons. Bon, je ne peux pas me permettre, car je suis un professionnel de la rupture, mais côté largué, le camp d'en face. Elle aurait dû finir sa valise, puis écrire le mot. Ben, c'était moins risqué, au regard du timing imposé. D'un autre point de vue, si j'avais débarqué dans la cuisine, sans mot préalable, et si j'étais tombée sur le remplissage impromptu de valises, le patate-caisse eût été sensiblement du même ordre. Bon, dans les deux cas, c'est nul. À sa décharge, pour réussir un sans-faute lever discret, petit mot, valise remplie, dans un temps réglementaire, elle aurait dû mettre un réveil. Ce qui m'aurait réveillée aussi. on devine la suite. Explication à n'en plus finir sur l'horaire excessivement matinal, sur ce regard fuyant, c'est le cas de le dire, tout ce qu'elle voulait éviter. Non, là-dessus, je pense que nous aurions été d'accord si nous avions discuté, elle et moi. En même temps, c'est exactement le genre de conversation qu'elle aurait aussi voulu éviter. On s'en sort pas là. Une rupture, ça doit être net et sans bavure, tranché dans le vif. Non aux séparations filandreuses ! Qu'aurait-elle dû faire ? C'est une vraie problématique que je connais bien. Par exemple, en ville, il m'arrive parfois de rencontrer une vague connaissance. Je m'arrête donc pour bavarder, faussement enjouée, qui ratisse tout ce que nous avons en commun. Quand l'un comme l'autre avons épuisé nos munitions conversationnelles et qu'un court silence s'installe, nous nous saluons bien bas, avec un peu d'effusion surjouée. Nous nous promettons de nous revoir bien vite, et puis nous reprenons notre chemin. Schéma classique. Sauf qu'avec moi, une fois sur deux, c'est le même chemin. C'est idiot, hein ? Nous voici pour 200 mètres supplémentaires ou plus, à marcher côte à côte en silence, après ces adieux prématurés. C'est dans cette prolongation post-mortem que se trouve le parallèle avec notre situation présente. Ces retrouvailles, largement anticipées, inaugurent un temps inédit qui encombre tout le monde, le retrouvé comme le retrouveur. La rupture est déclarée, mais la séparation des corps n'est pas effective. Curieux no man's land. Que sommes-nous l'un pour l'autre à cet instant ? Sous quel régime vivons-nous ? Dès lors, face à ce quiproquo matutinal, plusieurs solutions s'offraient à moi. Faire l'imbécile ? C'est tentant, je suis naturellement douée. Celui qui n'a même pas vu le petit mot. Bonjour ma chérie, déjà debout ? Je te prépare un café. Avantage, ça laisse la possibilité à l'adversaire d'effacer son geste, de revenir à un meilleur sentiment, sans s'avouer vaincu. Inconvénient, s'entendre confirmer le contenu du billet, mais version sourd et malentendant, donc un ton au-dessus, avec un brin d'irritation, que la sobriété du mot avait épargné. Deuxième solution, rester au lit, faire le mort, en léger différé. Laisser le destin s'accomplir sans profiter de l'étrange sursis, ni d'interférer initialement dans le cours des choses. La voie bouddhiste, ou de la lâcheté, c'est selon. Avantage, dignité préservée, inconvénient, regret éternel de n'avoir rien tenté. La sagesse populaire dit qu'il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Bon, j'ai jamais bien compris. Moi qui n'ai en général que des regrets d'avoir des remords.
J'ai mon petit cœur en lambeaux, mon petit cœur en sanglots, mon petit cœur qui est pas beau. J'ai la vie qui me fait la gueule. J'ai mon petit cœur qui a les crocs, le pouls en trémolo, mon petit cœur en morceaux, découpé comme un millefeuille. J'ai un petit cœur en colère, un cœur qui bat de travers, qui ne contrôle plus ses nerfs. J'ai mon petit cœur qui est tout seul. J'ai mon petit cœur à l'envers, qu'en a plein les ovaires, roulé comme une serpillière, en mitouflé d'un linceul. J'ai mon petit cœur qui a du mal, mon petit cœur qui s'emballe, un petit cœur à deux balles, qu'a les foies et qu'a la frousse. J'ai mon petit cœur qui a la dalle, un petit cœur qui déballe sa haine et son linge sale, qu'a le dégoût à ses trousses. J'ai mon petit cœur qui est pas bien, un petit cœur de vaurien, un cœur qui s'en bat les mains, qu'a froid, qui sanglote et qui tousse. J'ai un petit cœur assassin, un petit cœur qu'à la fin, un cœur qui joue les vilains, qu'en a gros sur la frimousse. J'ai mon petit cœur qui t'en veut, qui dit c'était pas sérieux de retomber amoureux. J'ai mon petit cœur en carafe. J'ai mon petit cœur qui est boiteux, qui rythme qu'une fois sur deux, comme pour me dire adieu. Un cœur qui ne fait plus son taf. J'ai un petit cœur pas tranquille, qui beugle, c'est pas facile, qui ne bronche plus un sourcil. Un cœur qui cherche les baffes. J'ai mon petit cœur qui est sénile, qui a tout vomi sa bile, qui ne touche plus sa bile. Un cœur qui enchaîne les gaffes. J'ai mon petit cœur qui me saoule, un petit cœur dans la houle, la hargne qui déboule. J'ai mon petit cœur en pétard. J'ai mon petit cœur qui s'écroule, un cœur qui se défoule, un cœur qui me fout les boules, qui comprend qu'il est trop tard. J'ai un petit cœur tout rouillé, qui a les pieds tout trempés, un petit cœur tout égaré dans la nuit et le brouillard. J'ai un petit cœur évincé, un petit cœur déprimé, qu'on n'a plus rien à compter, qui ne fera plus d'histoire. J'ai mon petit cœur en lambeaux, mon petit cœur en sanglots, mon petit cœur qui est pas beau. J'ai mon petit cœur qui dégueule. J'ai mon petit cœur qui a les crocs, le pouls en trémolo, un petit cœur en morceaux. J'ai la vie qui me fait la gueule. Un cœur qui ne veut plus fredonner. Ce refrain qu'il connaît par cœur, qui ne t'a jamais pardonné de m'avoir brisé le cœur.
Les dangers de l'ultimatum. Je me souviens, la solution que j'ai choisie ce fameux jour ne manquait pas de panache. Je me suis encastrée dans la chambranle de la porte, bras croisés, un genou plié à l'équerre, tête légèrement inclinée. Et je l'ai considérée, sourire en coin, hochant la tête, comme ces chiens sur les plages arrière des voitures. Elle n'a pas semblé noter ma présence. Mais comment ignorer longtemps une telle densité psychologique émanant de ma posture en lui fusillant la nuque? Tant bien que mal, elle réussit à maintenir cette feinte désinvolture à mon égard, bouclant sa valise d'un geste sec et précis. L'ironie mordante contenue par mon sourire dissymétrique n'allait manifestement pas suffire à infléchir ses projets à court terme. Bon, j'ai senti qu'il fallait passer à la vitesse supérieure. Verbaliser. Non pas au sens de la contractuelle, au sens freudien. Mettre en mots. Alors j'ai été odieux. Dis-moi Isabelle, tu t'en vas pour longtemps ou... On pourrait voir dans cette attaque une perfidie déloyale. Certes, un cœur de femme eût pu se fendre sur le champ. J'en connais les failles. Cette parodie de naïveté finement servie par une intonation chantonnée pouvait assurément déstabiliser l'adversaire. En même temps, la syllabe fine, montante « ouh » sonnait un peu comme une porte ouverte, une main tendue après l'uppercute. Sans que l'adversaire ne saisisse pour autant cette chance de rédemption. Alors tant pis, puisque la guerre était déclarée, je crois avoir ensuite décroché quelques remarques acides du style « Je t'attends pour le dîner » ou alors tu... On notera que j'ai su, jusque-là, maintenir la conversation dans un champ du suggéré, de l'indicible, du paradigme. C'est là que j'ai compris ma première erreur. Sans doute poussée par le sentiment d'une urgence. Elle filait maintenant vers la porte à grande enjambée, son intention de l'ouvrir était transparente, pour qui pénètre un tant soit peu les arcanes de la pensée féminine. J'ai abandonné ma posture de retrait pour rentrer dans son jeu. C'est ce qu'on appelle en termes de stratégie militaire une grosse connerie. La structure interne du conflit se renverse, c'est l'autre qui reprend la main. J'ai donc proféré une phrase malheureuse surlignée d'un doigt tendu « Je te préviens Isabelle, si tu franchis la porte !» Bref, un ultimatum, l'arme fatale, souvent fatale d'ailleurs pour celui qui l'emploie. Car par définition, on ne cède pas à un ultimatum. C'est presque un cliché. Qui qui a jamais capitulé devant une pareille menace? Qui a jamais dit « Bon, d'accord, tu fais chier, ok, oh là 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 là, non !» Non, un ultimatum vous fait au contraire vous dresser sur vos ergots, puiser dans vos réserves d'orgueil et vous encourage à faire tout l'inverse. Qu'on se souvienne des menaces adressées à Hitler en 1939. « Si vous touchez à la Pologne, c'est la guerre !» Espérait-on que le Führer rengaine ses panzers ? Tu parles, il vous a déferlé sur l'Europe en deux coups de cuillère à peau. Je ne dis pas qu'il fallait rester au lit, face au péril nazi. Je dis que l'histoire de l'humanité aurait dû m'instruire quant à la position à adopter au moment où Isabelle mettrait la main sur la poignée pour dévaster ma Pologne intérieure. Surtout qu'un ultimatum tel que « si tu franchis cette porte » n'a que deux issues. Hein. Quand la porte est franchie, le ridicule ou la fuite en avant. J'ai choisi la seconde, qui n'épargnait pas la première, bien au contraire. Car s'en est suivi un de ces « si tu descends cet escalier » bientôt dépassé d'un grotesque « si tu sors dans la rue » proféré avec un regain de décibels, mais paradoxalement avec un pouvoir d'intimidation sans cesse diminuant. Ouvrant grande la fenêtre sur cette vision d'Isabelle sautant dans un taxi, il me semble avoir lancé ce dernier anthème. Mais tout ça est un peu confus dans mon esprit. Ai-je retrouvé toute ma lucidité ?
Je te préviens, si tu rencontres un type de bien, que tu l'épouses et que tu lui fais des enfants merveilleux, c'est pas la peine d'espérer de revenir. Jamais !
Mon souci d'avoir toujours le dernier mot rend cette dernière saillie crédible dans les brumes de mes souvenirs. Je me vois assez bien refermer la fenêtre, goguenard, à vriller l'air de ma chambre d'un coup de poing fictif en guise de ponctuation. Et toc ! Ou alors suis-je descendu un peu plus bas encore dans la pantalonnade, lui proposant dès son retour du rôti de veau. Le veau, son plat préféré. C'était une perche tendue. C'est possible, pourtant, il a fallu me rendre à l'évidence le soir même, face au miroir. Elle n'aimait plus le veau, l'empreinte de son corps sur mon sofa. Quand les gens nous quittent, la coutume est de dire qu'ils laissent derrière eux un grand vide. C'est une grossière erreur. Pardon de rectifier, mais je trouve que les gens qui nous quittent laissent un trop plein. Ainsi, mon appartement, qu'un œil non expert pourrait qualifier de vide d'Isabelle, est au contraire plein. Trop, je ne mens pas. Hein. Elle est partout. Le sofa garde encore l'empreinte de son corps, comme le sable mouillé sur une plage, d'où elle se serait levée pour aller se baigner dans les flots et se noyer.
J'aurais préféré pour toi juste inverser le cours des choses. J'aurais aimé.
Et toi ?
Une main tendue, une rose.
J'aurais aimé de toi la certitude d'un geste. Simplement quand ça ne va pas, ne pas se fuir comme la peste.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
J'aurais préféré, ma foi, éviter nos sombres démences. Et maintenant, te fois, oublier partir en vacances. En vacances de toi, et comme l'amitié nous rattrape à chaque fois. Autant tenir quand ça dérape.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème. J'aurais bien voulu, tu sais, tenir le cap, sauver les murs, courir sans m'arrêter, ne pas frissonner sous l'armure.
Et j'aurais voulu, tu sais, la longue traversée tranquille. J'aurais même imaginé ne jamais atteindre une rive.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
Mmh.
aimer, tu sais, éviter nos fausses mesures. J'aurais même préféré de nous une lettre d'injure.
J'aurais voulu parfois, oui, t'étrangler aux quatre vents, te serrer dans mes bras. Ah ça, je l'ai voulu souvent. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on que l'on sème.
La marée seule pourrait m'aider à faire le deuil, effaçant dans les 12 heures chrono la forme sablonneuse. Mais à l'endroit où je l'ai placé, le sofa à pied sec. C'est au moins une marée d'équinoxe qu'il nous faudrait. On pourrait m'objecter qu'un bon coup du plat de la main et 3 coussins par-dessus pourraient rétablir le relief antérieur. C'est qu'on n'aurait rien compris. Les traces sont bien plus profondes. Nous ne parlons là de couches sédimentaires de l'appartement, du pli hercynien, la roche dure sous la masse calcaire. Comment soupçonner l'abîme si l'on en reste à la moquette des choses? La baignoire aussi déborde encore d'elle. Isabelle, c'est comme l'eau du bain qui s'écoulait par le trou d'évacuation sans que jamais le niveau ne baisse. Elle n'en sort plus de ma baignoire. Un temps, je me suis amusée à remplacer le mot « mémoire » par « baignoire », juste pour occuper mon esprit. Et aussi infatigable qu'explorateur sémantique, pour voir quelle drôlerie riche de sens la collision de ces deux termes pourrait produire. Eh bien, le croirez-vous, après 2 heures de recherche assidue, je n'ai rien trouvé d'un temps soit peu marrant. Et encore, moins d'un tout petit peu sensé. C'est tout juste si, avisant l'un des pieds branlants, je me suis arraché un maigre sourire sifflotant. J'ai la baignoire qui flanche. Parfois, je me livre aussi à ce petit jeu. J'ai un peu de temps devant moi, on l'a deviné. Suivre les méandres de la pensée. Pourquoi, à un moment donné, un individu parfaitement équilibré, tout à sa rêverie, en arrive-t-il à évoquer, par exemple, la capitale du Chili ou le prix des sous-vêtements ? En rembobinant la pelote du fil de sa pensée, on revient au point initial, le shampoing anti-poux ou les fraises Tagada. Ce genre de cause à effet, les associations d'idées livrées à elles-mêmes ont produit des sauts de puces irrationnels sans logique apparente. Un pas de côté en entraînant un autre dans le labyrinthe mental. Au point que l'on pourrait distinguer la folie de chez notre penseur solitaire surpris dans un tel cheminement chaotique. Je dis ça car je sens sur mes épaules peser un semblable soupçon de démence quand je vous livre ma cuisine intime. Ne niez pas. De fait, certains individus rendus à la brutale solitude peuvent perdre pied et gentiment dériver dans des eaux troubles de la dispersion mentale jusqu'à n'en plus revenir. Je tiens à vous rassurer en ce qui me concerne. Tout va bien. J'en veux pour preuve la parfaite cohérence de ma pensée aux antipodes des divagations délirantes tout azimut. Chez moi, un objet me fait penser à Isabelle, puis un autre objet me rappelle un moment avec Isabelle. Et d'une pensée à Isabelle, je passe sans transition à une autre pensée à Isabelle. Au terme de cette froide et implacable construction logique, qui mène d'un point à l'autre de manière rigoureuse, eh bien, j'en arrive naturellement à penser à Isabelle. Alors, quelle folie! Je ricane.
S'échapper. S'échapper. Une bulle de chuchotement hors du temps pour toi.
Un chuchotement hors du temps pour toi, pour moi.
S'oublier dans les confinements pour mieux revenir à soi. S'oublier dans les autres pour mieux revenir à soi.
À mon tour, j'avais aussi envie de faire une petite dédicace. Parce que j'en ai trouvé un des Jean-Claude. Un vraiment chouette. Un qui travaille chez Globule Radio et qui m'aide pas à pas à fabriquer ces bulles à distance. Alors j'en profite pour te remercier Jean-Claude. Et j'espère que tu m'en veux pas. Peut-être que pendant ce confinement, si vous avez des Jean-Claude Tergal chez vous, des BD de Didier Tronchet par exemple, il en a écrit plein, hein, ou des romans aussi, il en a écrit plusieurs, il a même fait un film. Peut-être que ce serait chouette de se replonger dedans là tout de suite. Je vais vous laisser en musique et puis je vous souhaite surtout de continuer à prendre soin de vous.
Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open sky? Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. To an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees move so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have